Vous êtes sur RTL. RTL.
J'ai voulu jouer avec ces jeux de cache-cache, inciter le lecteur, comme j'ai eu envie de le faire moi, à se glisser dans la peau de quelqu'un d'autre et à vivre d'autres vies que la mienne.
Adélaïde de Clermont-Tonnerre est l'invitée du journal Inattendu sur RTL.
Ne vois-tu pas ?
Les jours heureux, effectivement. Ce livre, il a été écrit en partie pendant toute cette pandémie, ce confinement, où on a été privé de cinéma, où on a été privé de toute cette liberté, cette insouciance. Et tout ce que je ne pouvais pas faire dans la réalité, finalement, je l'ai fait à travers ce livre.
12h30, 13h30.
C'est le temps des jours heureux.
Une des questions du livre, c'est: peut-on écrire sa vie? Est-on maître de sa vie? Peut-on, au fond, défier la réalité et se dire qu'on va transformer les choses pour les vivre à sa manière?
Le journal inattendu. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Ophélie Meunier.
Ça y est, je le sens, j'ai envie à nouveau de voir les jours heureux qui se pointent. Les voilà les jours heureux qui se pointent. Les voilà les jours heureux qui se pointent.
Bonjour Adélaïde de Clermont-Tonnerre, bienvenue dans le journal inattendu.
Merci, bonjour Ophélie.
Vous connaissez bien ce rendez-vous, on est ensemble une heure en direct et c'est vous qui prenez les commandes de l'émission. Écrivaine, journaliste, patronne de Point de Vue, vous venez de publier votre troisième roman, Les Jours Heureux, aux éditions Grasset, et c'est enivrant. Dans cette fiction, on est embarqué par Oscar, la trentaine, fils d'un couple, d'un des couples les plus célèbres du cinéma européen. Oscar va tenter d'écrire sa propre histoire au milieu de ces deux personnages écrasants, mais est-ce possible ? D'ailleurs, peut-on être vraiment maître de sa vie ? Baigné dans le monde du 7e art, vous tirez un portrait édifiant de ce 21e siècle dans lequel on évolue. Votre précédent livre, Le Dernier des Nôtres, a été récompensé par le Grand Prix du roman de l'Académie française. Alors à quoi vous aspirez pour les jours heureux ? Vous nous le direz. Mais d'abord, cette émission étant l'occasion de découvrir notre invité de manière inattendue, on commence toujours par l'autoportrait. De 2011 à 2013, alors que Marie Drucker était aux commandes de cette émission, vous, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, vous écriviez les portraits des invités. Pensiez-vous qu'un jour, vous auriez à écrire le vôtre, ici même ?
Non, honnêtement, ça ne m'aurait pas traversé l'esprit. Et j'aimais beaucoup cet exercice parce que j'aime, comme vous le voyez, comme vous l'avez dit, croquer les personnages. Donc croquer les personnages, en vrai, c'était très agréable. Et parler de moi, c'est plus difficile. Donc là, vous me mettez à l'épreuve.
Pas le choix, c'est votre tour. Vous avez une minute pour vous présenter. Alors, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, qui êtes-vous ?
Merci beaucoup. Alors c'est comme un réveil en pleine nuit. Le livre que je suis en train d'écrire m'appelle. Je me lève avec entrain, il est 4 heures. Paris ne s'éveille pas, ni mon mari, ni mes enfants. J'ai enfin un moment pour mes personnages. Frémissement de l'eau bouillante, imposante théière, je me glisse sous d'autres draps. Tout froid de la nuit, mon bureau est une chambre. Je travaille au lit. Et là commence le voyage. Je pars à Dresde et à New York. Je décolle pour la Grèce, Moscou, le Mexique. Je me transforme. Dans mes romans, j'ai été vieille et jeune, homme et femme, médecin, inventeur de fusées, soldat, chien, chat ou artiste. Je me suis battue, j'ai ri et j'ai pleuré. J'ai fait l'amour aussi, dans d'autres corps, sous d'autres traits. J'ai vécu mille vies. Puis vers 6h30, cette petite voix, comme tous les matins, « Maman !» L'un de nos fils de 6 ans, ou les deux qui se blottissent contre moi. J'atterris, le roman s'éloigne. Puis l'autre voix tant aimée m'appelle « Chérie !» Le bruit des assiettes qui se posent sur la table, la machine à café, l'odeur du pain grillé, la journée peut commencer.
Je suis rassurée, je ne suis pas la seule à voir son fils qui la réveille à 6h30. Je reconnais là votre écriture ciselée. Hein. Tout à l'heure, on entendra un extrait d'un de vos anciens portraits, ça vaut le détour. Mais d'abord, c'est le journal et les titres de ce samedi. Il est 12h30 passé de quelques minutes et ça y est, les coureurs du Tour de France se sont élancés depuis Brest pour cette première étape qui les emmènera jusqu'à Landerneau. On vit tout cela en direct dès le début de ce journal avec Morad Jabari qui se trouve sur la moto RTL. Applaudissements, larmes, soulagement à l'annonce du verdict dans le procès de Valérie Bacot. Cette femme a tué il y a 5 ans son mari tyrannique après avoir été maltraitée pendant 25 ans. Elle ressort libre du tribunal. Nouveau règlement de compte à Marseille dans des conditions à peine croyables. Deux joueurs de football ont été visés par des tirs en plein tournoi interquartier. L'un est mort, l'autre est gravement blessé. La scène a eu lieu à la vue des supporters. Nous serons sur place dans un instant. Deux boîtes de nuit parisiennes ouvrent leurs portes ce soir pour une expérimentation. Ils seront un millier de chanceux à faire la fête toutes les nuits, sans masque et vacciné, pour voir dans quelle mesure le virus se transmettra à quelques jours de la réouverture des discothèques. Des nouvelles du temps avec vous, Valérie Quintin. Bonjour Valérie.
Bonjour.
tout le monde n'a pas la chance de vivre un week-end estival. Hein.
Non, et puis alors pour le coup, pour le départ du Tour, c'est franchement raté. Même si pour l'instant, il n'y a pas trop de pluie sur le Finistère, mais il y en a beaucoup dans les Côtes d'Armor ou encore dans le Morbihan. Un gros paquet pluvieux qui va rester en place pratiquement tout au long de l'après-midi sur la Bretagne. Et puis du coup, sur tout le Nord-Ouest, on a un ciel quand même bien nuageux, des averses qui se répandent entre la Touraine, le bassin parisien et les Hauts-de-France. Mais pendant ce temps-là, c'est vrai, l'Est et le Sud du pays profitent d'une très très belle journée ensoleillée. Il faudra quand même compter sur quelques orages en montagne ce soir, sur les Vosges, le Jura, mais surtout sur les Pyrénées. Ça pourrait même claquer assez fort sur le Piémont. Les températures, on a un petit 17 degrés à Rennes contre 31 degrés à Nîmes cet après-midi, 20 degrés pour Lille et Paris, 25 à Nevers et Dijon, 26 degrés à Besançon et 29 à Agen et à Toulon.
Merci beaucoup Valérie. Après l'autoportrait Adélaïde de Clermont-Tonnerre, à 13h vous ferez la météo.
Avec
ce sera l'autre exercice du jour.
RTL Tour de France 2021.
C'est parti pour le 108e Tour de France. 23 équipes, 184 coureurs et plus de 3400 km à parcourir pendant 3 semaines. La première étape vient de démarrer. À l'instant, 198 km entre Brest et Landerneau. Notre champion français, Julien Alaphilippe, rêve d'être en jaune ce soir, mais il n'est pas le seul. On retrouve en direct sur la moto RTL Mourad Djabari qui suit pour nous le lancement de ce Tour de France, Mourad.
Vous voyez, premier kilomètre de cette étape 100% Finistère. On vient tout juste de quitter la magnifique rade de Brest, direction la fabuleuse presqu'île de Crozon, en longeant la côte et en traversant le parc régional d'Armorique, la Bretagne, qui accueille quatre étapes et qui a une réputation à tenir, surnommée le pays du vélo. Eh bien, il y a énormément de monde sur le bord de la route. Les Bretons sont sortis, les pique-niques, tous assis sur les ronds-points, décorés, les enfants et leurs maillots à poids, le drapeau noir et blanc breton, quelques cornemuses. C'est de nouveau la fête sur le bord de la route pour ce tour. Le beau temps est avec nous aussi. Le peloton en balade pour le moment. Il profite du paysage. Les coureurs sont applaudis. Vous parliez de Julien Alaphilippe. Il recueille tous les suffrages, tout sourire, le champion du monde, mais aussi les Bretons du peloton. Ils sont sept avec leur nom écrit au sol, dont les Finistériens David Gaudu et Valentin Madouas de la VFDJ. Valentin Madouas qui doit faire un petit coucou, un bisou à sa maman sur la route au niveau de la plage de Pentrez dans quelques kilomètres. Les coureurs ont le sourire, on annonce une belle bagarre en fin d'étape et le monde est de retour. Le tour est lancé, 108e édition sur RTL, 13h pour un prochain point.
Merci beaucoup Mourad, merci de nous mettre dans l'ambiance, une ambiance que vous aimez, que vous connaissez, Adélaïde de Clermont-Tonnerre.
Moi je trouve ça formidable parce que le tour c'est vraiment, j'ai eu la chance il y a quelques années de pouvoir suivre pendant quelques étapes avec Marc Madiot cette formidable épreuve et je trouve que c'est un moment de communion, de joie, les jeunes, les plus vieux, on pique-nique, on se retrouve, il y a vraiment une ambiance absolument extraordinaire. Et puis je suis particulièrement touchée cette année parce que ça part de la Bretagne qui est une région chère à mon cœur. Mon papa est maire dans le Finistère de la petite bourgade de Plouguet-Guéran. Donc le peloton breton peut aussi s'arrêter, le saluer, j'en serais très heureuse. Et après, il se dirige vers la région où vit ma maman. C'est à Loches et Loches est assez célèbre sur RTL parce que dans les grosses têtes, c'est l'objet d'une blague récurrente de Madame Belle-Père de Loches.
C'est vrai. Je vous rappelle le rendez-vous antenne à ne pas manquer, l'arrivée en live de l'étape du jour et le compte-rendu complet. C'est dans le Club Jalabert à 18h30 avec Laurent Jalabert et Christophe Paco. On prend la direction de Toulouse qui est en fête depuis hier soir. La finale du top 14 de rugby a sacré pour la 21e fois les joueurs de la Ville Rose. Ils ont dominé La Rochelle toute la rencontre, score final 18-8. Toulouse a été sacré en Coupe d'Europe il y a un mois. C'est la deuxième fois que le club réussit le doublé. Alors forcément, c'est la fête depuis hier soir. Et les Toulousains ont un peu de mal à redescendre, Benjamin Pelsi.
Ce n'est pas avec la parade de la victoire qui est en train de se préparer que les Toulousains vont redescendre en pression. Les équipes techniques de la mairie mettent en place les barrières de sécurité. Les lampadaires sont tous affublés d'oriflamme, stade toulousain. Alors contrairement à ce que certains m'avaient promis hier, aucun supporter du stade n'a pris place dès ce matin pour être sûr de bien voir les joueurs. Mais le public n'est pas loin. J'ai pu croiser des Toulousains impatients dans les ruelles environnantes.
Qui ne saute pas n'est pas Toulousain. Qui ne saute pas n'est pas Toulousain.
À chaque victoire, on est fidèle au poste. Et nous, ce qu'on veut, c'est aujourd'hui remercier nos chers joueurs. On veut leur montrer qu'on était à leur côté toute la saison et même pour la victoire et les féliciter surtout. On a deux victoires à fêter. Et on va pas le faire à moitié, on va fêter deux victoires comme il se doit à Toulouse.
Si je peux avoir quelques belles photos du groupe là, ce sera un bon souvenir.
Voir les joueurs qui descendent du bus et qui se mettent dans la foule et avoir les trophées à côté quoi. Prendre une photo avec les trophées, ça serait le kiff quoi.
Le bus impérial des joueurs partira à 14h30 du Stade d'Ernest Vallon. L'équipe devrait arriver au niveau des Ramblas toulousaines vers 16h. Avec eux, bien sûr, le bouclier de Brennus et la Coupe d'Europe.
Là aussi, grosse ambiance. Hein, Benjamin Pelletier à Toulouse pour RTL. L'actualité, c'est aussi ce verdict rendu dans l'affaire Valérie Bacot. Il y a 5 ans, cette femme a tué son mari tyrannique, Daniel Paulette, d'une balle dans la nuque, après avoir été violée, battue et prostituée pendant 25 ans. La cour a retenu la terreur dans laquelle a vécu Valérie Bacot et les multiples traumatismes qu'elle a subis. Sa peine, 4 ans de prison, dont 3 avec sursis, ce qui lui a permis de ressortir libre, sachant qu'elle a déjà passé une année en détention provisoire. Tonnerre d'applaudissements au tribunal à la lecture du verdict, Valérie Bacot a remercié le jury d'une voix soulagée, mais elle était surtout épuisée.
Je voudrais remercier la cour et tout le soutien que j'ai eu de tout le monde. C'est un nouveau combat maintenant pour toutes les autres femmes et toutes les maltraitances.
Vous allez comment, Valérie, si on peut vous demander ? Vous êtes soulagée ?
Non, pas soulagée, mais vidée. Vidée mentalement et physiquement.
Vous étiez préparée à partir en prison ?
Oui.
Ce soir ?
Oui.
Et vous rentrez chez vous ?
Oui, et je pourrais être là pour mes enfants et ma petite fille.
Valérie Bacot, micro RTL de Frédéric Perruche. Ce verdict, hein, comme elle le dit, c'est aussi un nouveau combat de gagné, hein, pour toutes ces femmes victimes de maltraitance.
Moi, j'étais extrêmement émue par ce verdict, parce que quel calvaire, quel calvaire cette femme a vécu. Et quel... Oui, bien sûr, il y a eu cet acte très violent, mais quel courage aussi de traverser pendant toutes ces années, de résister ce combat. Et évidemment que c'est une avancée pour les femmes, parce que il faut comprendre ces phénomènes d'emprise, il faut comprendre la violence, et puis surtout c'est une scandaleuse faillite du système. Comment a-t-on pu laisser cette femme aux prises avec cet homme? Comment a-t-elle pu être abandonnée à ce point-là? Donc je suis soulagée, et je vois bien qu'elle est au bout de ses forces et épuisée, mais pour toutes les femmes, je suis soulagée de ce verdict.
Dans un instant, on part à Marseille. Un nouveau règlement de compte a eu lieu hier soir dans des circonstances effarantes. A tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre et Ophélie Meunier.
La suite de l'actualité avec cette fusillade mortelle qui a eu lieu hier soir à Marseille. En plein tournoi de football interquartier, des tirs ont visé 2 joueurs qui se trouvaient à l'extérieur du stade. L'un est décédé, l'autre se trouve dans un état très grave. On retrouve sur place notre correspondant Hugo Hamelin. Ce qui est incroyable, ce sont les circonstances dans lesquelles cette fusillade a eu lieu.
Ouais, juste devant le stade où 1500 spectateurs étaient réunis, des familles, des enfants qui heureusement étaient en tribune et n'ont rien vu de la fusillade. Nordine est l'un des organisateurs du tournoi.
C'était l'étonnement parce que tout le public était à l'intérieur du stade pour le second match et ça s'est passé en fait à l'extérieur du stade, à 30-40 mètres. Et en fait, ce qui a alerté certains, ce sont les coups de feu. Et à l'extérieur, on a vu qu'il y avait une personne, au moins c'est une demi-heure après, j'ai vu une personne au sol avec du sang à côté. C'est condoléances à la famille avant toute chose. Après, la nature de l'événement, qui, quoi ou comment, franchement, je... Même là, je ne réalise pas encore ce qui s'est passé.
Selon nos informations, les 2 joueurs amateurs touchés par ces coups de feu multiples étaient bien visés par les tireurs. La personne grièvement blessée a été prise en charge en service de réanimation, en soins intensifs à l'hôpital Nord, situé juste à côté de la scène de crime. Le tournoi est bien sûr annulé pour le reste du week-end. Les organisateurs sont toujours sous le choc.
Les précisions d'Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. Sachez que 2 personnes sont décédées du variant indien du coronavirus dans le Gers. Elles étaient âgées de 42 et 60 ans. Elles n'étaient pas vaccinées et leur état de santé présentait des facteurs de risque. L'Agence régionale de santé a décidé de mettre en place un plan d'action immédiat pour éviter une reprise épidémique dans le département. Et puis la nuit parisienne reprend ses droits. Une soirée test est organisée ce samedi dans 2 boîtes de nuit de la capitale, le Cabaret Sauvage et la Machine du Moulin Rouge. L'expérimentation intervient 2 semaines avant la réouverture annoncée, hein, des discothèques. Voilà le dispositif. 1000 personnes non masquées et totalement vaccinées se retrouveront dans ces lieux clos pour danser, s'embrasser, s'amuser comme elles veulent. L'expérience va permettre de répondre à des questions sur la transmission du virus. Les résultats seront connus fin juillet. Vous iriez-vous vous enfermer là ce soir avec 1000 personnes, sachant qu'elles sont vaccinées mais pas masquées?
Alors moi qui suis maintenant vaccinée complètement, je trouve que c'est formidable de pouvoir faire ça parce qu'en plus ça va inciter les gens qui hésitent encore à se faire vacciner, ouais, à franchir le pas, parce que si on peut faire la fête, si on peut voyager, si on peut se retrouver, si on peut aller dans des stades de foot rempli à craquer, ça sera bien quand même. Il faut
oui,
y aller.
C'est vrai. Et dans l'actualité culturelle, eh ben, il y a ce nouveau roman. Les jours heureux, signé de votre main, Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Une fresque familiale avec en toile de fond le cinéma. On y parle carrière, Amour, fidélité, harcèlement, trahison, addiction au virtuel. Vous avez dit, lire, c'est se comprendre et comprendre les autres. Est-ce que c'est valable aussi pour écrire? Est-ce que vous avez l'impression de mieux vous comprendre depuis que vous écrivez, de mieux comprendre les autres?
En tout cas, de mieux comprendre les autres, ça c'est une certitude, parce que tout le plaisir infini de l'écriture, c'est justement de changer de peau, de changer de vie, de changer de personnage. Et c'est la meilleure manière d'être dans l'empathie. C'est-à-dire quand on peut ressentir intimement ce que les autres ressentent, se glisser dans leur tête, eh bien, on a une bonne chance d'être beaucoup moins brutal envers eux, d'être plus compréhensif et d'être plus aimant, tout simplement.
Voilà le point de départ des jours heureux. Édouard, réalisateur, et Laure, scénariste, forment un couple rare. Ils sont talentueux, célèbres, ils s'aiment passionnément et ils ont un fils, Oscar, qu'ils adorent, voire parfois étouffent d'amour. Laure et Édouard vont se séparer et se remarier 3 fois. Au début du livre, Oscar, le fils, apprend que sa mère est très malade. À ce moment-là, séparé, il va se mettre en tête de tout faire pour réconcilier ses parents une dernière fois dans leur vie. Comment est né ce personnage d'Oscar? Comment vous l'avez construit et fait évoluer, surtout au fil des 440 pages?
Alors ce personnage, au départ, c'est justement un fils qui essaye vraiment de se créer un espace. Je pense qu'on s'est tous posé la question à un moment, on peut adorer ses parents et avoir envie juste de simplement devenir soi-même, se trouver. C'est ce qu'il essaye de faire. Il y arrive d'ailleurs pas trop mal, mais c'est vrai que l'annonce de la maladie de sa mère va totalement le bouleverser. Il est très attaché à cette femme, qui est une femme charismatique, aimante, très présente, un peu étouffante, vous l'avez dit. Et donc, c'est vrai que c'est toute l'histoire, au fond, de comment Oscar va devenir un homme, comment Oscar va devenir lui-même. C'est pas facile de devenir un homme aujourd'hui. Avant, bon, il fallait sortir de la caverne, aller chasser un mammouth, partir à la guerre, nourrir le foyer. Maintenant, c'est beaucoup plus subtil. Devenir une femme, devenir un homme, c'est beaucoup plus complexe. On a une variété de choix, d'incarnation immense. Et lui, il a du mal à faire ça. Donc, c'est comme ça qu'il évolue. Et il est né d'une chose toute simple. C'est un ami que j'aime tendrement, qui est à la fois merveilleux et épuisant, qui adore sa maman. Sa maman l'adore.
Merveilleux et épuisant.
Hein, oui, épuisant parce qu'il est dans l'angoisse permanente qu'il arrive quelque chose à sa mère. Donc, c'est vrai que cette angoisse-là m'a à la fois touchée et amusée et que j'en ai fait le terreau de cette histoire.
Je ne sais pas s'il nous écoute, mais en tout cas, petit message passé.
Il se reconnaîtra.
Je disais que ce livre est aussi un portrait de notre 21e siècle. Il y a un personnage fort dans ce livre à travers lequel vous racontez beaucoup de choses de notre époque, c'est celui de Natalia. Influenceuse, on oscille entre se dire si elle est très très légère ou au contraire extrêmement maligne. Après, je laisserai les lecteurs le découvrir. Peut-être pas à une échelle aussi poussée que pour Natalia, mais sommes-nous tous un petit peu aveugles aujourd'hui de la relation que nous avons créée avec nos écrans?
Oui, je pense qu'on ne se rend pas compte. Alors, moi, je ne suis pas furieuse contre les réseaux sociaux. Il y a des choses merveilleuses, il y a des talents qui émergent. C'est aussi, par moments, une chance donnée à des gens de connaître la célébrité, de construire un business, d'exister, qui était, au fond, beaucoup plus difficile avant. Mais nous sommes honnêtement dans une addiction. Ces réseaux sociaux ont été créés, ça a été étudié à partir des neurosciences pour créer une addiction qui est aussi brutale, aussi forte que l'héroïne. Donc, par moment, je pense qu'il faut être capable de décrocher et que c'est pas facile.
Alors justement, vous avez choisi pour votre journal inattendu de nous faire écouter un extrait d'un documentaire qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée » diffusé sur Netflix. On y apprend à quel point les réseaux sociaux peuvent être dangereux. Extrait.
On dit souvent, si vous ne payez pas pour le produit, c'est que vous êtes le produit. Des sites comme Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, YouTube ont pour unique but de garder l'utilisateur le plus longtemps possible sur son écran. Ils veulent accaparer le maximum de temps et d'attention de chaque membre. Combien de temps je peux vous prendre? Combien de votre vie êtes-vous prêt à nous donner?
C'est exactement ce que vous disiez, et puis on aurait pu choisir plein d'autres extraits de ce documentaire fascinant, mais est-ce que après l'avoir vu, vous avez supprimé absolument toutes les applications?
Alors j'avais vraiment envie de tout supprimer, et je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai que j'essaie d'être dans un rapport beaucoup plus raisonnable et raisonné, et les réseaux sociaux, ça va encore plus loin, c'est que ça nous rend manipulables. C'est aussi quelque chose que j'aborde dans mon roman, c'est-à-dire que politiquement, nous pouvons être manipulables. Il y a des élections l'année prochaine, importantes, il faut faire extraordinairement attention à l'information. Ce qui vient sur les réseaux sociaux peut venir d'une source étrangère, peut venir de gens qui ont envie de nous influencer. Donc écoutez RTL et décrochez de vos écrans.
Est-ce que le titre Les Jours Heureux vient de Happy Days, la série, ou pas du tout?
Non, alors ça vient pas de Happy Days, mais c'est vrai que ces Jours Heureux, c'est un titre qui m'est venu avec beaucoup d'enthousiasme, parce que on a passé quand même des mois très ternes, très tristes, très contraints. Même les personnalités les plus optimistes et les plus vaillantes ont eu des gros moments de déprime, mais moi j'en ai vu autour de moi, et j'avais tellement envie d'offrir aux lecteurs de la luminosité, de l'espoir, de se dire que les jours heureux ne sont pas derrière nous, qu'ils sont devant nous. Donc ça m'est venu assez spontanément, mais Happy Days, ça me va bien aussi pour accompagner ce livre, parce que ça nous rappelle tellement de bons souvenirs quand même.
Alors Happy Days, et puis on se retrouve dans un court instant. A tout de suite sur RTL pour la suite du journal inattendu avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre.
Le journal inattendu d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre avec Ophélie Meunier sur RTL.
12h30, 13h30, le journal inattendu sur RTL. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Ophélie Meunier.
J'adore ce titre. C'est votre choix. Pink Family Portrait, un de vos choix musicaux donc, car votre roman c'est aussi le portrait avant tout d'une famille, une famille qui s'aime follement, on l'a dit, mais un couple aussi qui se déchire à plusieurs reprises. Il y a des aventures amoureuses parallèles qui viennent se greffer à ce couple central du livre. Est-ce que notre vision de l'amour restera toujours un peu orientée par ce qu'ont vécu nos parents, ou pas forcément?
Mais je crois, et c'est toute la difficulté de mon héros Oscar, c'est-à-dire qu'il a connu cet amour extraordinairement puissant de ses parents, en même temps ils sont incapables de vivre séparés, incapables de vivre ensemble, et ça lui a quand même mis la tête et le cœur à l'envers, ce jeune homme. Donc il a lui aussi beaucoup de mal au fond à trouver une relation épanouie avec les femmes.
Message pour les parents, ça. Pour vos extraits cinéma du journal inattendu, vous avez choisi une scène clé de César et Rosalie de Claude Sautet, film culte sur fond de triangle amoureux, extrait de la lettre de Rosalie à David.
Et je t'écris ma cinquième lettre et je m'attends à ton cinquième silence. Je ne te reverrai pas et je le sais aussi. Et pourtant, je voudrais qu'on me dise où tu es. David, César sera toujours César. Et toi, tu seras toujours David, qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre, et qui m'aime sans me vouloir.
Dans Les Jours Heureux, vous donnez subtilement, ou pas d'ailleurs, votre description de l'homme parfait. Page 106, les trois R. Rassurer, faire rire, faire rêver. C'est ça votre homme parfait?
Oh, c'est vrai qu'on a toute envie, je pense, de ce genre d'homme. Un homme qui, à la fois, est capable de briser la routine du quotidien, un homme en qui on a toute confiance, et un homme qui, oui, nous fait rêver. Moi, j'ai besoin d'admirer quand j'aime, et je trouve que c'est précieux aussi d'avoir ça.
En dehors de votre vie de romancière, vous êtes aussi journaliste et patronne du magazine Point de Vue. Vous avez deux vies avec deux publics de lecteurs différents. C'est complémentaire, l'un nourrit l'autre. Vous aimez ça, entretenir ça?
Oui, d'une certaine manière, c'est vrai. Et la chose que j'aime au fond profondément dans le journalisme, c'est l'interview. Quand vous êtes, vous connaissez ça mieux que quiconque, Ophélie, mais quand vous êtes face
c'est
à quelqu'un
en ce moment.
Oui, c'est ça, qui tout d'un coup, en quelques minutes, va vous donner vraiment plus qu'elle ne donnerait, au fond, il faudrait des années de déjeuner, de mondanité, avant que cette personne vous donne ce qu'elle va vous donner en une demi-heure d'interview. Moi, je trouve ça extraordinairement précieux. Et en tant que romancière, j'aime les gens. J'ai envie de les comprendre, j'ai envie de les écouter. Et toutes ces histoires qu'on me donne, en tant que journaliste, comme en tant que romancière, au fond, c'est très complémentaire.
Alors, j'ai regardé sur les 20 dernières unes, 20 dernières couves de Point de Vue, 14 sont consacrées de manière directe ou indirecte au Windsor, Elisabeth II, Meghan et Harry, Kate et William. Bonne vente garantie, la famille royale d'Angleterre.
Absolument.
Et puis, Elisabeth II forever.
Ah oui, moi je suis Elisabeth II forever. J'ai une admiration pour cette femme, mais sans borne. Regardez-la, 95 ans. Nous, ça fait 30 ans qu'on serait en train de faire des mots croisés et de la broderie parce qu'on n'en pourrait plus de faire ce job. Et elle, 95 ans, elle a perdu son mari il y a 6 semaines, le grand amour de sa vie. Et elle est là, et elle sourit. Et tout un peuple se raccroche à elle, à sa force, à sa légende. Moi, je trouve ça magnifique. Et puis, cette famille, c'est romanesque. Évidemment, les lecteurs en demandent et en redemandent parce que c'est le grand roman de ces derniers mois. On les a vus naître, grandir, mourir, se séparer, s'aimer. Donc là aussi, c'est complémentaire avec le travail d'écrivain.
Comme promis, on fait un bond 10 ans en arrière. Vous êtes prête ?
Je suis prête, un peu effrayée, mais je suis prête.
Toujours dans votre vie de journaliste. Nous sommes dans le journal inattendu. Marie Drucker est aux commandes de l'émission. J'espère qu'elle nous écoute. Et vous, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, vous avez le rôle d'écrire les portraits des invités. Face à vous, il y a eu Patrick Bruel, Denis Boone ou encore Franz-Olivier Gisbert. Et on va entendre un extrait du portrait consacré à Michel Sardou.
Alors d'abord, une confession. Je vous l'avoue, j'adore tous vos tubes, mais... Autre confession, ça m'a valu des heures très difficiles, notamment quand j'étudiais à Normale Sup, parce que dans ce temple de la gauchitude, vous étiez, pour mes petits camarades, un réac, un propène de mort, un machiste, un monstre populaire, bref, un hyper super méchant, parce qu'il n'avait pas particulièrement le sens de la mesure à 20 ans.
Quand moi non fait... plus, je pardonne.
Toujours pas d'ailleurs.
C'est drôle, je vous vois sourire à pleines dents à l'écoute de ce
oui,
ce
de sont des
archives.
Ce sont des très bons souvenirs, moi j'ai adoré cet exercice. C'est vrai que je salue aussi Marie Drucker. Et du coup, je suis particulièrement heureuse d'être aujourd'hui dans cette position inversée, très honorée d'ailleurs. Mais c'était très joyeux, très amusant. Et puis découvrir tous ces personnages en vrai, avec mon côté fan très basique, j'étais ravie.
Allez, on se retrouve dans un instant pour le rappel des titres et votre reportage inattendu. À tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.
RTL 13h01.
Le journal inattendu d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre.
13h, les titres de l'actualité, Ophélie Meunier.
Direction la première étape du Tour de France qui se déroule aujourd'hui entre Brest et Landerneau sur 198 km. Les coureurs se sont élancés sur cette 108e grande boucle qui promet du spectacle. On retrouve tout de suite Morad Jabari qui vit en direct la course avec nous. Comment se sont déroulées alors ces premières minutes, Morad ?
Alors le peloton qui a dépassé il y a quelques minutes la côte de Trévolin, il y a maintenant quelques kilomètres, une montée sinueuse entourée de forêt, une échappée qui a du mal à se dessiner. Quelques coureurs sont sortis, ils sont 5, dont 2 Français, Bonamour et Pérez. Le peloton est derrière à 50 secondes environ, direction la presqu'île de Crozon, et on traverse des petits villages sur la route, le toit en tuile noire et en pierre, des villages typiquement bretons. On voit les premiers supporters d'Alaphilippe, les premiers camping-cars, les pancartes pour les Bretons du peloton, des déguisements d'étapes de camping. Le monde est de retour sur le Tour de France. Prochain point dans une demi-heure.
Merci beaucoup, Morad. Vous êtes sur la moto RTL, d'où l'ambiance autour de vous. En attendant la 8e de finale lundi soir dans l'Euro de football entre nos Bleus et la Suisse, deux belles affiches ce soir. Pays de Galles, Danemark à 18h et Italie-Autriche à 21h. C'est à suivre en direct sur M6. Florian Gazan vous attend à partir de 19h pour On refait le match qui sera suivi de RTL Foot spécial Euro entre 20h et 23h. Un tremblement de terre d'une magnitude de 3,9 a réveillé Strasbourg en pleine nuit à 5h du matin. Une forte secousse a surpris les habitants avec une réplique un peu moins intense 5 minutes plus tard. Aucun dégât grave n'a été constaté. Jérôme Vergne est sismologue à l'Institut du Globe de Strasbourg. Il est au micro de Dimitri Ramelot.
C'est en fait le séisme le plus important de toute une séquence qui secoue cette zone de l'Eurométropole de Strasbourg depuis plusieurs années. Et cette séquence de séisme est clairement liée à un projet de géothermie profonde. Et en fait, ce projet de géothermie avait consisté à injecter de l'eau sous pression à plusieurs kilomètres de profondeur. Ça fonctionne dans tout un ensemble de lieux. Mais là, on a une activité sismique vraiment intense et avec un paroxysme, on va dire, ce matin avec ce séisme de magnitude 4. Le dernier gros séisme très bien ressenti avait eu lieu en décembre 2020 et avait engendré l'arrêt de ce site-là. Mais en fait, il y a toujours de la sismicité qui se produit après l'arrêt des injections. C'est le temps que le sous-sol se rééquilibre. Ça peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années.
Les explications du sismologue Jérôme Vergne, propos recueillis par Dimitri Ramelot. À 13h, la météo, c'est avec notre invité. Alors, quel temps fera-t-il ce week-end, Adélaïde de Clermont-Tonnerre?
Alors, ce week-end, dans l'Est et le Sud, on se déshabille. Il fera beau dans toute cette partie du pays, avec toutefois des gros orages attendus en fin de journée près des Pyrénées. Sur le Nord-Ouest, en revanche, on se rhabille. Le ciel sera très mitigé, avec des averses assez fréquentes et même de bonnes pluies orageuses en Bretagne. Message spécial pour mon papa. Oui, il pleut en Bretagne. Mon père affirme qu'il ne fait que crachiner la bonne pluie orageuse. Les températures iront de 17 degrés à Cherbourg à 32 à Avignon. Il fera 24 à Paris. Profitez bien de votre week-end.
Je précise que on se déshabille n'était pas du tout prévu par notre journaliste météo Valérie Quintin. Dans votre roman, on parle aussi nourriture à travers vos personnages. Édouard aime notamment les femmes qui ont un bon coup de fourchette. Pourquoi ?
Mais je pense que ça fait partie de la sensualité. Alors, Édouard est un homme sensuel qui aime les femmes, qui est très sensible à leur charme et il aime aussi beaucoup cuisiner. Il est très gastronome et je crois que c'est assez lié. La manière de danser, l'appétit qu'on a et la sensualité sont très liés dans mon esprit.
Oui, parce que je termine ma phrase. Pourquoi ? Parce qu'elles jouissent mieux, selon lui, les femmes qui mangent
et
bien.
Et bien voilà.
vous avez un bon coup de fourchette ou pas, Adélaïde de Clermont-Tonnerre ?
Alors, sans aucune conclusion à tirer, pardon d'utiliser ce mot d'ailleurs, sans aucune conclusion à tirer, j'ai un bon coup de fourchette.
Question pour votre reportage inattendu, vous avez souhaité nous emmener auprès de nos agriculteurs. Comment sauver notre agriculture et nos assiettes ? Eh bien, de plus en plus de citadins se tournent vers le métier. Notre journaliste l'a constaté dans un département que vous connaissez bien, je crois, hein, l'Indre-et-Loire. Des jeunes investissent dans des projets innovants qui redynamisent le territoire. Ils sont aussi parfois accompagnés par la Chambre d'agriculture. Le reportage est signé Christian Panvert.
Je suis allé à Saint-Paterne-Racan à la rencontre d'Alexis Gruzon, 36 ans, originaire du Nord. Il rêvait d'être agriculteur comme son grand-père. Après des études en mécanique, il enchaîne des petits boulots de saisonnier avant de se lancer dans le rachat d'une ferme.
J'ai regardé sur Internet, j'ai trouvé une exploitation en Touraine et j'ai dit on va tenter l'expérience. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici à Saint-Paterne-Racan. Il y avait 85 hectares de culture avec 4 poulaillers en label rouge.
Il monte un dossier solide, une banque le soutient dans son projet, la culture et la transformation de pommes de terre.
Notre production de pommes de terre, elle est stockée tout au long de l'année en frigo. Les grosses, on va aller les emmener dans le labo de transformation, donc ils vont subir un épluchage, une découpe, et ensuite c'est mis sous vide. Donc c'est de la frite fraîche crue sous vide qui va être livrée. Restaurants, collèges, lycées, tout ce qui est événement, la foire de Tours, les 24 heures du Mans, le printemps de Bourges, toutes les fêtes d'école. Très important aussi, les fêtes d'école, les fêtes de village.
L'entreprise prospère très vite. En 5 ans, il passe d'un hectare de pommes de terre à 17. Il en commercialise aujourd'hui 700 tonnes, une activité devenue rentable.
Elle nous fait vivre à 80%. Des moments, je me sens plus forcément agriculteur, mais plutôt agri-manager, quoi.
Il emploie désormais 3 personnes, dont sa femme, Anne-Charlotte.
C'était pas prévu, on avait dit à la base qu'on travaillerait jamais ensemble. Et finalement, voilà, on s'est lancé dans l'aventure. J'ai un bagage en comptabilité finance audite. J'ai apporté ma rigueur sur l'exploitation.
Ce type de réussite réjouit la Chambre d'agriculture qui veut aussi susciter des vocations. Près de Loche, par exemple, elle organise des rallyes découvertes des fermes à reprendre. Ornée Lafaille, chargée de développement.
On va aller visiter 2 exploitations. Une exploitation où on a un agriculteur qui souhaite transmettre et une exploitation où un jeune s'est installé via un stage pré-installation parrainage. À la suite de sa visite, si ça l'intéresse ou pas, il pourra prendre contact avec un conseiller de la chambre, contacter les banques aussi pour savoir si son projet est viable ou non.
2 prétendants sont en train de concrétiser leur rêve. Le prochain week-end aura lieu en novembre. Et Ornella voulait vous poser cette question.
Bonjour Adélaïde, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'un jour il vous est déjà passé par la tête de tout plaquer pour créer une exploitation et pourquoi pas un élevage ?
Merci beaucoup Ornella pour cette question et effectivement ça me traverse très très régulièrement l'esprit. Moi j'ai grandi en grande partie aussi à la campagne, mon grand-père avait une exploitation agricole donc je suis très attachée à ce monde-là et figurez-vous que mon frère me devance justement à Loche parce qu'il travaillait dans l'immobilier et qu'il est parti s'installer dans la région tout près de chez vous, pour élever des vaches. Et il en est très heureux, sa femme aussi, ses 2 enfants. Donc c'est un grand changement de vie et peut-être que j'essaierai de le suivre, justement.
Bientôt vous, peut-être. Dans un instant, on reçoit votre invitée, l'actrice et réalisatrice Andrea Bescon. C'est une première rencontre entre vous deux. À tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Le journal inattendu sur RTL.
N'ayez pas peur du bonheur. Il n'existe pas, ni ici, ni ailleurs.
Vous écoutez le journal inattendu avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre et nous sommes aussi en direct avec Andréa Bescon. Bonjour Andréa, merci beaucoup d'être avec nous. Berry qui chante « N'ayez pas peur du bonheur, il n'existe pas ». C'est une chanson que vous aimez beaucoup, hein, je crois, Andréa Bescon.
Oh là, écoutez, j'ai le poil qui se hérisse là. Ah. Chaque fois que j'entends cette chanson, elle a tellement accompagné mon parcours aussi que oui, j'y tiens beaucoup. J'ai beaucoup d'affection. Cette chanson est tellement, tellement vraie. Le bonheur n'existe pas, il est partout.
Je précise à nos auditeurs que vous ne vous connaissez pas, hein, toutes les deux, Andréa et Adélaïde. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, vous teniez particulièrement à ce qu'Andréa Bescon soit votre invitée. Alors expliquez-nous pourquoi.
Mais oui, d'abord, merci Andréa. Je suis très heureuse de faire votre connaissance de cette façon parce que moi, j'ai une admiration totale pour le parcours d'Andréa. J'ai été absolument bouleversée par la force vitale, la résilience, le courage qui transparaît dans les chatouilles, la sagesse de vie aussi. Ça a été un moment extrêmement fort pour moi, ce film. En plus, autour de moi, voilà, il y a des gens qui ont traversé des choses similaires et je trouve que c'est salvateur et que tout ce que vous faites quotidiennement, je vous suis, je regarde la manière dont vous faites bouger les lignes, vous changez les choses, je trouve que c'est extrêmement courageux. Donc je suis très heureuse de vous rendre hommage aujourd'hui et de pouvoir vous parler.
Merci Adélaïde, ça me touche beaucoup puisque évidemment au quotidien on peut mener des actions, pousser des coups de gueule et on n'a pas l'impression que ça bouge tant que ça, donc du bien d'entendre le contraire.
Oui, preuve en est. On est en présence ici de deux femmes féministes, hein, deux femmes engagées. Andréa Bescon, donc Adélaïde vient de le dire, vous êtes à l'origine, entre autres, du bouleversant film Les Chatouilles. Et vous vous battrez, hein, toute votre vie contre les violences sexuelles sur mineurs notamment. Ouais. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, vous abordez de manière à peine déguisée, hein, le cas Harvey Weinstein dans votre livre avec le personnage de W, producteur puissant d'Hollywood qui abuse des femmes et que personne n'ose faire tomber. Vous disiez, je ne connais pas une femme qui n'a pas eu une fois dû faire face au désir contraint. Est-ce que vous trouvez, toutes les deux, qu'il y a eu du progrès tout de même depuis le mouvement MeToo ou depuis le mouvement MeToo inceste, par exemple?
Alors, moi, je trouve qu'il y a eu du progrès. J'ai hâte de savoir ce qu'André en pense. Oui, il y a eu du progrès grâce à ces femmes qui ont été extrêmement courageuse. C'est pour ça que je voulais en parler dans ce livre-là. Moi, j'ai des personnages de femmes très libres, créatives, puissantes et très blessées. Et je trouve que celles qui, dans la vraie vie, ont eu le courage de se lever, de parler, c'est absolument titanesque ce qu'elles ont fait. Parce que contrairement à ce qu'on dit, même aujourd'hui, même avec tout ce qui a été dit et fait, le regard sur elles change à jamais. Et il y a un moment dans votre film, Andréa, qui m'a particulièrement touchée, quand on dit, mais vous devriez, la jeune femme parle avec son psy, elle dit, mais vous devriez en parler à votre amoureux. Et elle répond, l'héroïne, non, c'est dans les contes de fées. Et c'est vrai que très souvent, ben, l'homme, il va être tellement choqué qu'on parle de ça, qu'il va s'en aller. Il y a très peu de gens qui restent, il y a très peu de gens qui sont là. La manière dont les parents aussi réagissent, la manière dont on préfère toujours étouffer plutôt que d'accueillir cette parole, la croire. Et il y a un passage dans mon texte où je finis par ces mots qui sont tellement forts. Je vous crois, je te crois et je suis là pour toi. Et Andréa, oui.
Oui, c'est vrai que ce qui a changé, c'est que les gens croient maintenant. On n'est plus, je me souviens d'interview d'Eva Thomas qui disait qu'à l'époque, en 86, où elle avait parlé des incestes qu'elle avait subis, elle avait été très majoritairement traitée de menteuse, qu'elle exagérait, que de toute façon, tout ça est assez normal finalement et quotidien, ce qui est vrai en l'occurrence. Mais aujourd'hui, je me souviens qu'à l'époque où moi j'ai parlé, où Flavie Flamand, qui était en plus qui a une notoriété, on l'a jamais traitée de menteuse. Donc il y a ça qui a changé. Puis c'est vrai que MeToo dans la foulée a permis de faire énormément évoluer la société civile. Les gens ont envie d'agir contre les violences et on sent qu'ils avancent aussi. Alors moi, ce que je regrette, je vais pas vous mentir, ce que je regrette, c'est que la société politique ne se soit pas emparée de ça. C'est en 2017, hein, MeToo. Et depuis 2017, il n'y a toujours pas de large budget mis en avant pour former et les magistrats et la police et également la société civile par des spots. Je me souviens qu'en 72, on a parlé des accidents de la route à cause de l'alcool. Il y a eu, mais vraiment, c'était de l'ordre même de la propagande. Attention, après deux verres, tout s'accélère, etc. Là, l'emprise, si nous, les artistes, les écrivains, on s'en empare pas, l'emprise, la pédocriminalité, violence faite aux femmes, violence conjugale, etc. Si dans nos romans, nos films, nos fictions, on n'en parle pas clairement pour dans un point de vue évidemment artistique, mais aussi pédagogique, eh ben on voit bien que malheureusement la société politique ne s'empare pas de ça et c'est un très gros défaut de notre société.
Vous, en tout cas, vous en emparez, Andréa Bescoin, continuez à vous en emparer dans votre art. Vous vouliez dire quelque chose à Delphine?
Oui, je voudrais dire que justement, moi, ce que j'ai trouvé très important aussi, c'est qu'Andréa Bescoin, vous avez sorti des livres pour les enfants, pour expliquer aux enfants, au fond, pour les préparer à se défendre de ça, pour que les parents aussi, chaque parent, puisse préparer leurs enfants à cette éventualité, parce que c'est pas qu'on a envie d'y penser tout le temps, mais juste ça arrive et que si on leur parle et si on les prépare, c'est la meilleure manière de les protéger. Donc vraiment, moi, je recommande ces livres parce que ça, c'est une manière d'agir très concrètement.
Et moi, je recommande...
Disons que, évidemment, ce sont des sujets tellement anxiogènes, on n'a pas envie d'aborder ça, on n'a pas envie d'aborder le harcèlement, on est à pédocriminalité, ça semble logique et l'inceste. C'est dur, quoi, de trouver les mots. Nous, avec Mathieu Tucker et Harper Collins, on a créé des ouvrages assez ludiques autour de ça pour aider justement les adultes. Alors, ils sont pour les enfants, mais aussi à destination des adultes qui auraient envie d'aborder les sujets d'une manière non anxiogène, même si évidemment c'est un peu antinomique de parler de l'inceste en étant léger. Mais pour autant, c'est faisable. Et il faut le faire, on n'a pas le choix. En fait, il y a un enfant sur cinq qui est victime de violences sexuelles en France, en Europe, partout dans le monde, ça n'a pas de frontières. Donc c'est vraiment très très important aujourd'hui d'avoir ce courage-là. Et on se rend compte que ce sont nos peurs d'adultes qu'on combat, parce que les enfants sont tout à fait réceptifs.
Merci Adélaïde de rappeler ces livres. Et moi, Andréa Bescoin, je rappelle votre actualité fiction et cinéma. Vous venez de terminer le tournage du film d'Alexandra Lamy, Touché, histoire forte de femmes qui tentent de se reconstruire après avoir justement subi des violences conjugales et sexuelles, notamment grâce à l'escrime. Vous tournez également un autre film avec Éric Métayer, Quand il sera grand, autour d'enfants et de résidents d'EHPAD. Voilà le mélange des générations dans ce huis clos, dans un EHPAD. Et puis bientôt sur M6, je le recommande vivement, on pourra découvrir À la folie avec Marie Gillin et Alexis Michalik, fiction sur l'emprise exercée par un pervers narcissique. Voilà des thèmes forts que vous mettez en scène, que vous jouez, que vous réalisez. Merci d'être là pour mettre des mots sur des sujets si importants. Merci beaucoup à toutes les deux.
C'est vrai qu'on est deux aussi avec Éric Métayer et je crois que de se partager le travail et surtout le regard d'un homme aussi sur ces violences-là, sur cette emprise, et c'est beau de voir aussi les hommes évoluer autour de ça. Et ce que je tiens à dire aussi, c'est que souvent le féminisme est associé à la misandrie, alors que non, pas du tout. Au contraire, on rêve d'une société où hommes et femmes puissent vivre en totale harmonie, avec les mêmes droits. Et il y a une poignée, finalement, de personnes qui abusent de ce pouvoir, une poignée d'hommes qui vont abuser d'un pouvoir, qui vont abuser de leur domination. Alors qu'il y a beaucoup d'hommes qui en ont marre, en fait, de cette domination-là aussi. Et ça, il faut le souligner. Il y a beaucoup d'hommes qui s'investissent. Et ça fait plaisir.
Merci infiniment, Andréa, pour ces jolis mots et puis pour cette jolie rencontre. Je souhaite qu'elle continue hors antenne. Ça, c'était un lancement, finalement.
J'en serais très heureuse. Et moi aussi, je me joins parce que pour cette déclaration d'amour aux hommes, effectivement, c'est très important de le rappeler. C'est absolument pas une guerre des sexes qu'on veut, loin de là.
Adélaïde de Clermont-Tonnerre, dans un petit instant, une surprise pour vous. Et encore un grand merci, Andréa Bescoin, et on espère à très très vite sur RTL.
Avec grand plaisir, merci pour ce moment.
Le journal inattendu d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre
avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Et comme promis, votre surprise est en ligne avec nous. Vous vous connaissez depuis très très longtemps. Vous êtes même partis en classe de mère ensemble. Elle vous connaît vraiment bien. Vous êtes amis et vous avez entre autres l'écriture en commun. Est-ce que vous avez une petite idée
Oui, là il n'y a pas beaucoup. Oui, là dans ce cas-là j'ai une idée.
Vous voulez vous lancer? Si c'est pas ça.
Oui, mais si c'est pas ça, je vais avoir la ridicule.
Bon alors bonjour, bonjour Sarah Chiche.
Ah oui c'est ça.
Bonjour.
Merci, bonjour Sarah.
Merci d'être avec
nous. Ah bah alors je suis très touchée.
On vous connaît en tant qu'écrivaine et psychanalyste, mais aussi vous êtes une copine d'école, en fait, d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Dès l'école primaire, vous parliez écriture déjà ensemble, toutes les deux?
Mais en fait... Vas-y Sarah, vas-y, je t'en prie.
Oui. Ce qui est sûr, c'est que ça ne me surprend pas du tout qu'Adélaïde soit devenue écrivain, parce que le vœu d'écriture était déjà très très ancré en elle. Elle avait, à l'âge de 10 ans, un goût inouï pour la composition des personnages, des situations, et une faculté dingue à inventer des mondes.
À 10 ans, hein, vous voulez dire, à l'âge de 10 ans.
Ouais. Quand on était en 6e en français avec Madame Guittard, nous avait donné à faire une rédaction. Qu'avez-vous fait pendant vos vacances? C'est le genre de sujet absolument terrifiant, parce qu'on ne voulait surtout pas raconter ce qu'on avait fait pendant nos vacances, mais on se sentait contrainte à le faire. Mais Adélaïde, pas du tout. Adélaïde n'avait pas du tout voulu raconter ce qu'elle avait vécu pendant ses vacances. Elle était partie sur complètement autre chose, ce qui lui chantait. Et pourtant, elle avait eu la meilleure note. Parce que notre professeur, qui nous avait lu la rédaction d'Adélaïde, nous avait expliqué que certes, Adélaïde avait inventé toute autre chose, mais elle n'avait pu être que désarmée par le souffle romanesque de son écriture et son inventivité. Et on avait 10 ans. Donc déjà, c'était la promesse de quelque chose.
Bluffante.
Ah mais je suis totalement impressionnée parce que je me rappelle de Madame Guittard, mais je me rappelle pas du tout de ce moment-là. Donc je suis très touchée et je dois avouer que moi j'avais déjà toute petite une amitié pour Sarah parce qu'on était un peu à part toutes les deux, un petit peu différentes, ouais. Et de la retrouver des années plus tard à travers ses livres qui sont mais honnêtement d'une puissance rare, d'une puissance d'évocation rare, d'une grande lucidité, d'une grande maîtrise, d'une langue superbe. Je le dis vraiment en toute sincérité, c'est quelque chose de très fort. Donc comme quoi ce terreau de classe qui était un peu particulier pour nous, nous a finalement bien réussi.
Alors vous êtes depuis toutes ces années restées amies. Quelle amie est-elle, Sarah Chiche, Adélaïde de Clermont-Tonnerre?
Déjà, quand on était petite, Adélaïde donnait l'impression de traverser les bonheurs comme les difficultés de la vie, toujours avec panache et courage. Vous savez, aujourd'hui, on emploie un peu le mot inspirant à tort et à travers, mais il y avait tout de même quelque chose de cet ordre-là, pour moi. Disons que le panache et le courage d'Adélaïde, ça avait valeur d'exemple. Et puis, c'était aussi une amie d'une grande loyauté. Donc, on est partis en classe de mer, en classe de nage ensemble, on a traîné dans les mêmes boums, les mêmes cafés, et on s'est perdu de vue, et des années plus tard, on s'est retrouvés, et vous savez... Quand on traverse certaines choses, il arrive qu'on retrouve des gens, beaucoup plus tard, qui vous disent des paroles comme un baume, qui réparent et réconfortent, qui soutiennent, mais sans jamais juger. Ou alors ce sont des jugements qui élèvent et qui enseignent et deviennent une forme de cadeau pour la vie vers la vie. Et j'ai eu la chance qu'Adélaïde me fasse ce cadeau par ses mots. Et je crois qu'Adélaïde sait donner ce genre de choses à ses amis, avec beaucoup de loyauté.
C'est une belle déclaration.
Je suis très, très touchée. Je suis très touchée. Et moi, je suis honnêtement très sensible parce que Sarah a une lucidité humaine et une force humaine, honnêtement, que j'ai rencontrée quasiment jamais. Donc voilà, merci pour tout ce que tu as dit. J'en ai des frissons et j'en suis vraiment très émue.
Et merci. Alors, j'en profite. Merci beaucoup, Sarah Chiche. Et j'en profite pour rappeler votre dernier livre dont Adélaïde parlait il y a un instant, Saturne, aux éditions du Seuil. Merci pour cette petite
surprise. Les Enténébrés, et les précédents.
De nous avoir permis de découvrir Adélaïde un petit peu autrement. Merci pour ce joli moment. À très vite, Sarah Chiche. Merci Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Hein. Puisque vous n'allez pas tarder à le faire, chers auditeurs, mettez ce roman, Les Jours Heureux, dans votre valise pour l'été. Les personnages nous embarquent, les pages se tournent, comme disait Sarah Chiche. Les mots nous parlent, nous réconfortent, nous réparent parfois. Le journal inattendu, c'est toujours disponible en replay hein, sur notre application RTL. Tout de suite, vous retrouvez Jean-Alphonse Richard pour Confidentiel consacré à Jimi Hendrix. Et puis on va faire un petit point sur le Tour de France, comme chaque demi-heure sur RTL la semaine prochaine. C'est la dernière du journal inattendu avant l'été et je recevrai Cyril Lignac. Bon week-end à tous sur RTL, à samedi prochain 12h30 sur Happy Days bien sûr.
RTL, le journal inattendu. RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Alain Souchon chante Dalida, Vanessa Paradis France Gall, Johnny Alain Bachung. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical et bien sûr à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.